Salut les amis, les pas amis. C'est génial, c'est la seule émission qui n'a pas de nom. Et Michel va m'aider à lancer le générique parce que c'est très rustique aujourd'hui.
Ouais, on va réveiller les punks qui sont en nous. Allez, c'est parti.
La seule émission qui n'a pas de nom. Et je le fais plusieurs fois au cas où vous auriez pas compris. En plus, je me trompe. La seule émission qui n'a pas de nom.
Tabadapapap.
Tagalapapap. Ah, vous avez vu ça? Je me suis entraîné toute la nuit pour bien apprendre mon générique à la guitare. Et j'ai envie de dire youhouhouhouhouhouhou. Ah oui, c'est écrit comme ça sur le texte. Mais pourquoi dis-je youhouhouhouhouhouhouhou? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est la fête. Non pas que Hollande ait fait une vraie proposition de gauche alors qu'il était en freestyle total sur TF1. Non, car ça fait un an que je suis bénévole à Radio Bip pour vous proposer cet instant de bonne humeur. Ah ah, bonne humeur. Un instant qui dure une heure, c'est rare. Mais j'emploie les mots que je veux, car c'est mon émission. Et je voudrais remercier 101 millions de fois Radio Bip, et surtout Christine quand même, je vais dire son prénom, allez, on s'en fout, de m'avoir laissé partager en toute liberté ma folie et ma vision de la vie et de l'actualité, sans jamais me dire si ou cela, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il faut pas que tu dises ça. Et je pense que c'est bien rare en radio. Alors longue vie à Radio Bip, le lieu d'expression libre bisontin. Ou bisontine, je ne sais pas avec quoi on accorde. Enfin, vous vous en foutez sûrement pas mal de mes remerciements. Mais si je les avais pas faits, je m'en serais voulu. Et en plus, une heure d'émission, c'est long à préparer. Et ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Du coup, ça décrédibilise un peu mes remerciements, ce que je viens de dire. Mais je vous assure, ils sont sincères. Quoi? Vous me croyez pas? Je dois refaire semblant de pleurer pour qu'on me croie? Comment aurais-je pu vivre sans cet espace de libre expression? Je suis touché et je pleure très bien. Je ne peux pas m'empêcher de faire semblant de pleurer tellement je suis ému. Vite, il faut que je prenne un faux mouchoir pour sécher mes fausses larmes. Non, mais c'est vrai, quoi. On est libre ici. Libre d'exprimer sa pensée. Si j'ai envie de dire que Sarkozy est encore plus immonde qu'une vieille merde toute pourrie, eh ben, je le dis. Et même si ce n'est pas argumenté, eh ben, je m'en tape. Ce qui est bien, c'est que je pourrais dire cela de chaque candidat à la présidentielle. À part peut-être ceux qui ne sont pas des politiciens professionnels et qui viennent porter la vraie parole du peuple. Des gens qui souffrent. Si j'étais rancunier, je dirais des saloperies sur lutte ouvrière, car apparemment, ça ne représente pas un grand intérêt pour eux de venir dans l'émission. Mais je respecte leur combat. Mais eux ne comprennent pas mon émission. Là, je crois que je dois ressortir mon faux mouchoir. Non, mais moi aussi, je me bats aussi pour les vrais gens. On en a le droit de rire un peu, quand même. Non, ça m'énerve de faire cette voix. En plus, ça me fait mal à la gorge. On imagine que je pleure. Si l'émission n'a pas d'intérêt pour lutte ouvrière, je crois que cela ne sert à rien qu'on continue l'émission. Par extension, ça sert à rien que je vive. Alors, je vais me suicider en direct. Alors, je vais prendre mon lacet, hein, parce que les cordes, c'est bien trop cher pour les gens comme moi. D'ailleurs, notre gouvernement, qui aime bien humilier les chômeurs et autres bénéficiaires du RSA en les faisant passer pour des assistés, devrait aller jusqu'au bout de ses propos et offrir un kit, il se l'offre déjà, un kit de suicide décent aux chômeurs et autres bénéficiaires du RSA pour qu'ils aient une petite corde, pour bien se pendre, quoi. Parce que, ouais, pour s'acheter une vraie corde, il faudrait qu'ils fassent un emprunt et bien sûr, il leur serait refusé. Oui, je suis démagogue, je soutiens les pauvres. Ne comptez pas sur moi pour pleurer sur le sort des pauvres riches qui payent trop d'impôts. Oh, c'est dur. Car les vrais assistés, ce sont eux. Et que l'on ne me fasse pas croire que l'on peut se constituer une fortune à partir de rien. Et si on le peut, je pense que les personnes parties de rien se souviennent des moments où ils ont galéré et sont sûrement heureux de partager leur fortune. Moralis. Oui, j'aime ça. Je comprends maintenant pourquoi lutte ouvrière ne veut pas venir dans l'émission. Je relais les mêmes idées qu'eux, sauf que moi, si je veux me marier ou avoir des enfants, bah ce sera pas mal vu par ma secte. Faut croire qu'en fait, je suis un peu rancunier. Hein. Ou alors que je donne gratuitement une information. Ce sont pas les seuls politiques à ne pas vouloir venir dans l'émission, mais pour le moment, je vais les ignorer et je vais laisser mes seconds couteaux les attaquer, mes snipers, tout à l'heure le bisontin, par exemple. Mais je me pose une question, pourquoi ils veulent pas venir? D'ailleurs, le bisontin se la pose aussi après, mais on s'était pas concerté. Est-ce qu'ils ont pas d'humour? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils me trouvent con? Ou pas assez docile? Ou peut-être ces quatre facteurs en même temps? Enfin, s'ils me faisaient que me snobber, ce serait pas un problème. Mais le problème, c'est que, en général, ils snobent tous les Français. Mais en tout cas, c'est la fête. C'est l'anniversaire.
3, 4.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
La seule émission qui n'a pas de nom.
Happy birthday to you.
La seule émission qui n'a pas de nom.
Solo.
Happy birthday to you.
Alors, si vous aussi, vous voulez souhaiter bon anniversaire à la seule émission qui n'a pas de nom, vous pouvez le faire sur Twitter via le hashtag LSEQNPDN.
Et si vous voulez entendre un grand jingle fait à la guitare, vous allez entendre tout de suite parce que... Ah non, je vais peut-être vous présenter le plan de l'émission avant. Quoique, je peux pas, parce qu'il y a des surprises. En fait, je vais vous l'annoncer, dans la suite de l'émission, on va se prendre la tête avec Michel. Ce sera pas du tout prévu. Et après, on fera un entretien d'embauche de quelqu'un qui sera là pour remplacer Michel. Et puis, on fera plein de trucs. Oh, on s'en fout, on écoutera de la musique, on dansera, on tuera des prêtres.
Et des chats.
Et des chats. Et jingle. La seule émission qui n'a pas de nom. Oh, ça n'a pas de nom. Tagalapapap. Tagalapapap. Pour le moment, je fais que de parler. Alors, je vais essayer d'initier un dialogue avec Michel pour me relaxer.
On va tenter.
Michel, tu ne serais pas né le 29 février ?
Bah, si, par exemple. Comment tu sais ?
Je sais pas. On va le découvrir, là, tout de suite. Le 28 février, c'est la date d'anniversaire de la seule émission qui n'a pas de nom. Et le lendemain, justement, on en parlait une fois tous les 4 ans, c'est le 29 février. Ouais, j'ai plein de...
Ça fait de l'émotion, je comprends.
Bah oui, c'est difficile à vivre, hein. Un jour qui vient tous les 4 ans. Enfin, vous avez bien fait d'écouter la seule émission qui n'a pas de nom pour savoir que tous les 4 ans, il y a un 29 février. Oui, vous avez bien entendu. Quelle information ! C'est sûrement ce que s'est dit le journaliste de France 3 Franche-Comté qui a décidé le 29 février de consacrer un sujet au 29 février. Je m'imagine bien la conférence de rédaction à France 3 Franche-Comté, où le journaliste dit tout d'un coup « Oh là là, j'ai un sujet en or, un truc qu'on n'a pas vu depuis au moins 4 ans à la télévision. Je vais faire un sujet sur le 29 février !» Voilà, bien sûr, trouvant l'idée géniale, les journalistes de France 3 Franche-Comté ont arraché leurs habits en poussant des hurlements, avant de s'envoyer des saucisses de morteaux et autres morceaux de comté les uns sur les autres. Oui, ce sont des scènes très fréquentes dans la rédaction de France 3 Franche-Comté. Et encore, c'est soft. Car à France 3 Bourgogne, ils ont le même rituel, sauf que à la place du comté et des trucs comme ça, ils s'envoient des bouteilles de vin de Bourgogne et autres pots de moutarde au visage.
Et de l'huile brûlante pour la fondue bourguignonne.
Une fois leurs esprits repris, le journaliste a dû trouver un angle, une façon de mettre en scène son reportage, et s'est dit qu'il serait intéressant de tourner une partie de son sujet au Musée du Temps, bien entendu. C'est logique de tourner son sujet sur le 29 février au Musée du Temps. Le 29 février, c'est la fin du mois. Qui dit fin de mois dit galère, qui dit galère dit esclave qui rame, qui dit ramer dit problème d'argent, et comme chacun le sait, le temps c'est de l'argent, c'est d'une logique implacable. Dans ce sujet, on apprend que le calendrier julien, comptant 365 jours, a été remplacé par le calendrier grégorien, introduisant ce 29 février tous les 4 ans.
Non, non, et le 29 février était déjà dans le calendrier julien.
Ah, il était déjà entre eux, alors on l'a retiré, merci Michel.
Pour non, il était tous les 4 ans, par contre il y avait un petit décalage quand même, enfin il y a eu un réajustement, parce que puis il y a un jour qui saute tous les 4 siècles, enfin bref.
C'est compliqué cette histoire de calendrier, enfin, tout ça pour dire, ils ont peut-être bien fait du coup de faire un sujet sur le 29 février, parce que je l'ai pas compris. Enfin, bon, je crois que vous pouvez quand même mourir tranquille, même si vous le savez pas vraiment. Après avoir reçu autant de culture ou d'inculture, ça ne sert plus à rien de lire, vous savez tout sur le monde. Vous n'êtes pas encore mort ? Ça veut dire qu'il faut que je continue à faire mon billet ? Pfff. Oh non, j'ai pas envie, moi. Bon, ok. Ah non, ils sont toujours pas morts, les gens qui ont le cœur sensible ? Oh, bah là là. Je suis obligé de continuer mon billet. Oh, bah là 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 là. Qu'est-ce que je joue bien, la surprise ? Mais elles sont mortes, cultivées et enterrées. Et ces personnes, en fait, elles sont mortes. C'est marqué sur ma feuille. Et elles feront un très bon engrais pour d'autres cultures. Enfin, on va revenir à ce sujet de France 3 Franche-Comté, passionnant. Et là, je vais devoir ressortir mon faux mouchoir, car je me suis senti trahi. Mais en plus, j'arrive vraiment à faire le bruit. Michel, tu veux pas dire un truc le temps que j'essaye d'essuyer mes fausses larmes ?
Oui, bah on peut dire que chez les Mayas, il n'y avait pas de 29 février, mais bon, en même temps, chez les Mayas, la fin du monde, c'est fin décembre, donc ils s'en moquent un petit peu qu'il n'y ait pas de 29 février.
Et maintenant, écoutez ça, écoutez cet extrait, vous allez être surpris.
Les médecins pensaient que je allais naître le 14 février, donc une date aussi un peu spéciale, mais pas la même. Et non, bah, finalement, il y a eu une longue attente hein, de 15 jours, et, jusqu'au 29, puis même... Premières heures du 29, puisque je suis né à 2h du matin.
Oh mon Dieu ! Michel, interrogé sur France 3 Franche-Comté. Et là, je me pose plusieurs questions. Pourquoi ce fond de musique rock derrière ? Je veux pas dire, mais en général, au cinéma, on met de la musique pour faire ressentir des émotions à un moment où sans celle-ci, on ressentirait pas grand-chose. Donc, dans cette logique, on peut penser que la musique a été ajoutée afin de donner de l'entrain à un youpi à ce reportage. Ils t'ont demandé, France 3, pour mettre cette musique ?
Non, en fait, ils m'ont pas demandé grand-chose hein, sur le montage, ce qui est normal en soi. Non, non, bah, musique d'ambiance, j'ai envie de dire.
Sinon, j'ai vraiment adoré les plans de couple où on te voit, Michel, t'es en train de regarder des pendules sans regarder la caméra. Et là, franchement, je me dis, soit t'es un putain d'acteur, soit le cadreur il s'est un peu caché pour prendre les images en douce, soit je suis en train d'utiliser l'ironie pour te chambrer.
Des années de pratique.
D'acting, acteur studio. Enfin, après cette sublime performance d'acteur, Michel nous livre, par l'intermédiaire du journal d'information de France 3 Franche-Comté, des faits que les Franc-Comtois, devant France 3 à ce moment-là, n'ont certainement pas pu oublier.
Ma mère est née le 31 décembre, ma soeur, une de mes sœurs est née le 14 juillet, donc on est un peu habitués aussi aux dates pas communes.
Et là, une question que tous les francs-comtois se posent. Est-ce que ton chat est né le 1er mai ?
J'ai pas de chat. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu le choix dans la date.
Tu grilles tes futurs effets que je te mettais dans ta bouche après, mais c'est pas grave. Après ces moments où l'on apprend toutes les dates d'anniversaire de la famille de Michel, le journaliste, fidèle à la tradition du fait divers de France 3 Franche-Comté, se sent obligé de nous faire peur.
On va vous rassurer tout de suite, il n'a pas souffert dans sa jeunesse d'une date d'anniv ne tombant que tous les 4 ans non. Aucun traumatisme méritant d'être évoqué ici, cela l'a même incité à s'intéresser au pourquoi du comment.
Bon, il a essayé de nous faire peur. Après, il s'est rendu compte qu'en fait, ça marcherait pas. Les personnes qui sont nées un 29 février se suicident pas plus que les autres. Quel dommage. D'ailleurs, pendant cette intervention du journaliste, on voit un plan de coupe où Michel n'a pas pu s'empêcher de marquer sur l'écran de son ordi l'effet qui m'a grillé, le choix dans la date. Une contre-pétrie que Michel n'hésite pas à utiliser. D'ailleurs, il vient de la réutiliser juste avant. Il l'a utilisé la première fois qu'il était là. C'est un grand classique de Michel, quoi.
L'esprit grosse tête, hein, l'esprit papillote, j'ai envie de dire. D'ailleurs, comme Tiefen, hein. Tiefen qui a rendu hommage aux papillotes en faisant un remerciement samedi dernier, je crois.
Ok, bah, je vais dire trêve de baliverne, mais après que t'aies parlé, c'est pas très sympa. Mais en même temps, je dis ça, on va encore te faire parler.
C'est quelque chose de plutôt anecdotique, mais de sympathique. C'est quelque chose qui est toujours, c'est toujours agréable d'en parler. Donc moi, je le vis plutôt bien. Après, il y en a peut-être qui sont peut-être un peu plus gênés, mais moi, je le vis plutôt très bien.
Et ça permet même d'en parler à la télé, en plus. C'est-à-dire, c'est...
On peut même passer à la télé pour le 29 février.
Waouh ! Rock, 29 février. Voilà, en attendant la conclusion... Enfin, c'est pas vraiment la conclusion du sujet, c'est la conclusion du moment où il y a Michel dans le sujet. On peut vraiment penser que c'est un sketch, mais non. C'est un sujet développé dans le journal d'information régionale d'une chaîne de télé publique. Je ne veux pas lancer de polémique. Et sinon, je suis quand même plus sympa que France 3 au montage, Michel, non ?
Oui. Oh, bah, après, c'est ça d'être un marron, quoi. Le fruit d'un marronnier. Donc, comme tous les natifs du 29, nous sommes tous des marrons.
Nous sommes tous des enfants de marronniers, première, deuxième. Je suis tellement sympa au montage, comme ça, dans la vie. Je suis un gros con, mais à l'antenne, je suis sympa. Et maintenant, je vais te laisser faire ton billet, Michel.
Ouais, parce que, bon, on rigole comme ça, on a l'air bien, mais la seule émission qui n'a pas de nom, c'est un espace de liberté où on a l'impression que nos politiques locaux peuvent venir s'y pencher en toute quiétude, en se laissant aller à une douce euphorie, et même quelquefois évoquer des trucs ou des fantasmes les plus intimes, comme le noyage de verre dans un verre d'eau ou des choses du même acabit. Pour cela, on peut dire merci, Alexandro.
Ah oui, merci, moi.
Mais c'est pas tout, parce que vous croyez que tout se passe comme ça, mais il y a des vérités que les auditeurs doivent aussi connaître. Et derrière ces apparences sympathiques, un peu non préparées, la seule émission qui n'a pas de nom, c'est un travail de forçat. Une dictature de l'humour, le bagne de la vanne. Là, vous dites, non, il exagère et tout ça. Mais moi, je ne compte plus les sévices endurés pour une blague pas haut niveau, les petits détails que vous ignorez. D'ailleurs, derrière chaque problème, ouvrez les guillemets, technique, fermez les guillemets, se cache un cri de douleur d'une cigarette écrasée sur l'avant-bras. Je repense également au bison, le bisontin, qui à peine a-t-il dit « oui » à une chronique mensuelle, s'est retrouvé marqué au fer rouge, dans le haut de la cuisse, par le hashtag LSEQNPDN. Alors je le revois, quittant le studio, la larme au bord des yeux, tenant debout juste par sa seule dignité. Effectivement, vous n'imaginez pas ce que c'est également ce travail de forçat pour quelques minutes d'antenne. Le lever aux aurores, l'entraînement physique intensif, le jogging à jeun, enfin au niveau de la nourriture. Les 5 heures du matin. Je crois que finalement le pire ça aurait été l'enlèvement de toute la famille et la réception quelques heures plus tard d'un mot, soit drôle, signé le courbeau qui n'a pas de nom. Depuis, à chaque émission, une libération. D'ailleurs, pour l'anniversaire, peut-être que si le courbeau nous écoute, il pourrait libérer au moins tous les enfants. Voilà. On s'amuse, on pleure, on rit. Mais c'est pas le pays de Candy, parce qu'ici il y a des méchants. Et pas de gentil. À tous ceux qui pensent que l'humour n'a pas de prix, j'ai envie de dire que est-ce pas la bien cher payée ? Mais comme le syndrome de Stockholm n'arrive jamais seul, je dois dire qu'au final, j'aime bien ça. Et si j'avais la possibilité, je crois que je continuerais le plus longtemps possible de participer à la seule émission qui n'a pas de nom.
Et un jingle ! La seule émission qui n'a pas de nom. C'est bien dit, et ça fait tagada papa. J'ai une belle voix, Michel, là, j'ai pas du tout aimé ce que tu viens de dire, là. Déjà, toute ta famille, elle va rester en camp.
Sors pas mon... en Alsace.
Et je sors mon arme de dissuasion massive. Attention, il fait au moins 3 mètres de haut. Oh. Il s'appelle Christophe. Mmh. Et on s'en servira comme joker si jamais t'as un problème, Michel. Si tu as un problème,
Un accident de la circulation est vite arrivé.
Voilà, vous entendez Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, merci.
Qu'est-ce que tu vas faire pour essayer de prendre la place à Michel?
Écoute, tu m'as demandé de rédiger un petit truc, je me suis dit ok. Donc déjà, merci de me laisser de profiter de cet espace de liberté, comme dit Michel. Et contrairement au bison, je me lutterai pour ne pas avoir le tatouage sur la cuisse. Bon, ceci dit, je voulais vous parler d'un phénomène qu'on pourrait hâtivement qualifier de relativement imbécile et qui consiste à systématiquement ne laisser qu'un choix binaire. En politique, ils appellent ça le bipartisme.
Déjà, tu fous l'ambiance.
Ouais, j'essaye, mais non, mais normalement, c'est un peu plus drôle hein, par la suite.
Hein. Non, mais j'aime bien moi, les combats comme ça.
donc bipartisme, la droite ou la gauche, mais aussi la peste ou le choléra. Attention, hein, rien à voir avec le choix précédent. Ou alors fromage et dessert. Et selon la réponse, on est forcément catégorisé. Il faut catégoriser tout un chacun. Le quidam de base ne peut pas rester dans le vague. Il doit être d'un camp ou de l'autre. Il peut pas être d'ailleurs. Ceci dit, si le fameux quidam est d'ailleurs, il a de forts risques, d'être déjà remonté dans un avion de la compagnie Gay en Airlines à grands coups de pompe dans le derrière.
Est-ce que tu veux qu'on détende l'atmosphère après ton premier bafouillage? Parce que sinon, tu vas continuer à bafouiller.
Ouais.
Alors, je vais faire un petit paix. L'humour à la française.
Voilà. Un pipi calaproute, j'aime bien, moi, ça me va. Prenons l'exemple de la politique. Comme c'est un sujet important de l'émission, vous recevez régulièrement des politiques, ça aurait été dommage de ne pas l'aborder. Dans cette campagne électorale, dont le niveau peine à dépasser celui des pâquerettes fanées, il convient de savoir si on est de droite ou de gauche. Notons toutefois le cas particulier du Front National qui, Claude Guéant, encore lui, nous l'a appris la semaine dernière, est de droite et de gauche. Nationaliste et socialiste. Heureusement d'ailleurs qu'il a dit nationaliste et socialiste. Il aurait pu dire national-socialiste, et sans cette petite conjonction de coordination, ça aurait fait penser au parti nazi, alors qu'en fait, pas du tout.
Ah non, c'est pas ce qu'il voulait faire, moi
je pense pas. Pour en revenir à notre sujet, on assiste en particulier sur les réseaux sociaux à cette navrante dichotomie entre pro et anti-Sarkozy, le tout sans demi-mesure. Le mec de droite sera catégorisé sarkoziste et le mec de gauche anti-sarkoziste, on n'est pas à une caricature près. Hein. D'un seul commentaire, d'un seul tweet, on est catalogué sarkoziste, ce qui est, je le concède, relativement infamant, croyant mon amère expérience. Car, que cela soit dit, je suis pas sarkoziste. Notre aimable président candidat n'éveille clairement point en moi ce qu'on pourrait appeler un enthousiasme débordant, pas plus que François Hollande soit dit en passant. Je ne suis effectivement pas anti-sarkoziste primaire, d'autant qu'il suffit de lire un discours d'Henri Guénaud pour devenir anti-sarkoziste secondaire. C'est pour ça que, pour me catégoriser dans ce monde binaire, les gens sont bien embêtés. Mais moi aussi d'ailleurs, en vue des prochaines échéances électorales, je vais être un peu embêté. Il faut toujours choisir. En 2007, par exemple, c'était la gourdasse ou le gourdin au deuxième tour. Bah, moi, j'ai pas pu choisir, j'ai voté blanc. Et pour faire un rapport à Guéant et sa politique d'immigration, je crois que blanc, c'est pas mal, en fait, comme choix.
Christian Blanc, le député d'Île-de-France ?
Non, le vote blanc, c'est le vote, son prénom. Et plus localement, on a aussi nos cruels dilemmes dans lesquels il est bon ton d'avoir un avis tranché. Le TGV, le tramway, les platanes, il faut se positionner. Quand notre ami le bison, encore lui, choisit de ne pas choisir, de laisser le lecteur ou l'auditeur se faire sa propre opinion, de rire de tout ça en soulevant le point qui gratouille ou qui dérange, il se prend une volée de bois vert, sans doute du platane d'ailleurs, pour lui rappeler qu'il faut être pour le tramway. Ou contre le tramway d'ailleurs, je sais plus bien ce qu'il faut penser. En dehors de ce cadre lourdingue qu'est la politique, fût-elle nationale ou locale, il existe bien d'autres sujets beaucoup moins essentiels, ou plus essentiels selon l'intérêt qu'on porte à la politique, mais sur lequel nous n'avons toujours qu'un choix binaire, pour ou contre les liftings répétés de Carla Bruni. Fromage ou dessert, ça je l'ai déjà dit, ou alors pour ou contre l'extermination des adolescents prépubères acnéiques. C'est un choix essentiel.
Grande question.
Ou alors évolutionnisme ou créationnisme. Par exemple, pour cette dernière question concernant le monde, avec un grand M, on ne nous laisse le choix qu'entre ces deux théories, c'est parfaitement idiot. On ne parle pas assez du Big Cosmic Crash.
Bon, après chaque bafouillage, je ferai un paix.
Vas-y, je t'en prie. Voilà, donc le Big Cosmic Crash, en français, c'est le grand accrochage cosmique. C'est une théorie qui est émise par la confrérie des pandas roux. C'est une confrérie assez peu connue, mais qui existe. Alors que je vous explique, nous serions issus d'une civilisation supérieure qui a eu un accident de parcours intergalactique il y a 65 millions d'années. Accident qui a fait perdre aux passagers de nos ancêtres, donc toutes leurs connaissances. Et alors depuis, on nous vend cet accident pour une météorite qui a par ailleurs supprimé les dinosaures sur cette planète, alors que bon, franchement, vous comprenez bien que ce n'est pas tout à fait le cas. Ceci dit, attention. Quand même, quand on parle de ce genre de théorie, créationnisme en particulier. Sur les religions, quelles qu'elles soient, ça reste un sujet sensible. Et personnellement, j'ai pas envie que Radio Bip, la seule émission qui n'a pas de nom ou son brillant animateur...
Brillant comme le soleil. Hein.
Voilà, c'est une flatterie basse mais tout à fait volontaire. Voilà, j'ai pas envie qu'il soit le siège d'une manifestation de catholiques intégristes ou la cible d'une fatwa. Finalement, je conçois qu'on me trouve inclassable, bref, différent. Je ne rentre pas dans les petites cases dans lesquelles on veut me faire rentrer. Outre le fait que je sois bien trop large d'ailleurs pour une petite case, j'ai toujours peine à choisir, surtout quand on me laisse que deux choix. Et bien conscient que cela risque de me poser quelques petits soucis le dimanche 6 mai, je prends quand même le risque et s'il le faut, je choisirai de pas choisir.
C'est beau. Et au pire, tu pourras voter pour Benoît Vimin.
Du moins qu'on sait que la droite c'est le mal, après le reste, ça va quoi.
Michel, t'as bien résumé ma chronique, c'est bien.
Oui, bah je crois que j'ai tout compris.
Et tu dis que t'es de droite, mais que t'as même pas de parti pour toi. C'est ça, hein.
Bah, on peut quand même encourager Dominique, hein, seul contre tous, contre les moulins à vent.
Contre les signatures aussi.
Oui, on va encourager le jingle, parce que je tape sur ma guitare, je l'ai pas amené pour rien, et je fais des jingles à la guitare, parce que c'est la fête, youpi! En plus, c'est beau. Solo. La seule émission qui n'a pas de nom. Ta-da-da, pa-pa. Et t'es bien la dernière note. Christophe, si tu veux que je t'embauche, on sait jamais, hein.
Bah écoute, moi encore une fois, un accident à la circulation est vite arrivé pour Michel, on en est abri de rien.
Je vais arrêter de venir en voiture, je crois.
Déjà, t'as perdu des points parce que t'as dit que t'étais de droite, mais je suis sympa, je suis quand même pluraliste.
Alors justement, non, je dis que j'étais pas de droite.
Ah, moi j'ai compris ça, mais je comprends rien, tout ça, un abruti.
Chacun comprend, oui, comprendra voilà. Ce qu'il voudra.
Je vous laisse libre de votre interprétation.
Justement, on va recevoir là deux invités politiques. Mais auparavant, on va écouter une musique, parce que je t'offre carrément une petite tribune totale, même avec la musique.
Sympa.
Et tu vas te présenter ta musique, parce que j'ai rien compris, puis j'avais pas envie de le retenir.
D'accord, en fait c'est une chanteuse suédoise assez sympathique, pop folk un peu, qui vient de sortir il y a pas longtemps son 4e album. En concert c'est assez sympa, pour l'avoir vu la semaine dernière en concert, et donc là c'est la première chanson de son 2e album qui est sorti il y a quelques années, et ça s'appelle Girl Laying Down.
Eh ben, on va aller Indon, nous aussi.
C'est Anna Ternheim, pardon, j'ai oublié de donner son nom, c'est essentiel.
C'est comme Tina Turner, mais en pas pareil.
Voilà.
Me trompe de notes. La seule émission qui n'a pas de nom. Et sa guitare qui fait tagalala papa. C'est fantastique. Donc on va recevoir là ces deux hommes politiques. Ils sont beaux, ils sont là, ils sont derrière la vitre. On les imagine pas parce qu'ils sont là pour de vrai. Parce qu'il faut que vous y croyez derrière votre poste. Alors notre premier homme politique vient du Haut-Doubs. Bonjour homme politique qui vient du Haut-Doubs. Bonjour à la seule émission qui n'a pas de nom. Je m'appelle Marius Terrus. Je suis originaire du pont de Pontarlier. Et je suis candidat pour l'UMP dans la 5e circonscription du Doubs. Pourquoi? Parce qu'entre 2-3 verres de pastille de Pontarliani, je me suis dit que ce serait bien pratique d'être député. Car moi aussi je porte des cravates et j'aimerais bien passer à la télévision tous les mercredis après-midi. Vous faites quoi dans la vie alors, Marius Terrus? Je suis chef d'entreprise. Une entreprise qui fabrique des maillots de bain, des skis de fond. Et ma première mesure en tant que député sera de faire en sorte que tous les bénéficiaires du RSA, n'étant que des sales pauvres, assistés de surcroît, soient envoyés dans des abattoirs pour être transformés en chipots, en saucisses de mortaux. Que dis-je? Et sinon, j'aimerais vous faire remarquer aussi que j'ai juste de quoi vivoter. Je ne suis pas un anti, non, je gagne 20 000 euros. Ah oui, c'est vrai, ça fait quand même 2000 euros par mois, c'est pas énorme. Ouais. Non mais vous rigolez, c'est 20 000 euros par mois. J'ai pas investi le compte épargne de mes parents pour ne pas pouvoir manger tous les jours. Hein, parce qu'avec 2000 euros par mois, on peut pas manger tous les jours. Essayez-vous de vous payer les bons restaurants pendant 2000 euros par mois. C'est long hein, tout ça, hein. Taisez-vous un peu Marius Terrus. Et présentons le deuxième homme politique qui se présente en dissident dans la deuxième circonscription.
Oui, bonjour, je m'appelle Raymond Michael Glaoui, et je me présente en dissident dans la deuxième circonscription du Doubs. J'ai eu un accident testiculaire. J'ai pas confiance dans les écologistes, en fait, c'est pour ça que je me présente. Je suis un spécialiste de la culture, des événements culturels qui font un gros bide, un peu élitiste. Et les partis qui ont des tournesols comme emblème, ils sont pas dignes de confiance. Ils sont forcément tous fous. Souvenez-vous, Van Gogh, il peignait des porte-sols. Des porte-sols, des tournesols, il était complètement fou. Posez-moi d'autres questions, sinon je vais continuer à parler avec ma voix aiguë.
Ouais, écoute, Alexandro, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit débat.
Je ne m'appelle pas Alexandro.
Non, non, je parle à l'animateur, là, monsieur.
Excusez-moi, oui, j'étais parti...
Monsieur Glaoui, enfin.
Monsieur Glaoui.
Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de répondre déjà à cette question. Comment on fait pour se rapprocher de la majorité des électeurs, sachant que le salaire moyen, grosso modo, en France, c'est moins de 1700 euros. Comment on fait pour se rapprocher d'eux?
Oh, c'est simple, on va dans des concerts à la Rodia. Wesh, culture.
Ah, moi, je suis pas d'accord. Quand on a faim du mois, on est obligé de manger du saumon à la maison parce qu'on n'a plus les moyens de se payer un 13 étoiles. Là, on est proche du peuple. Là, on souffre comme tout le monde.
Mais alors, dans ce cas-là, pour vous, c'est quoi la classe moyenne dans ce pays?
C'est ceux qui ont les moyens de se payer une place pour aller à la Rodia. Wesh, culture.
Oh non, c'est pas ça. C'est ceux qui font des emprunts pour acheter mes maillots de... mes skis de fond.
Bah alors, vous briguez tous les deux un mandat de député. Mandat, c'est quoi? C'est un mandat local ou national?
Alors, c'est simple, hein. Vous ne connaissez rien. Député, c'est un mandat national qui permet de faire passer des lois pour un gouvernement ou un lobby, ou les deux en même temps.
Ouais, député, c'est un mandat national. Parce que tu peux faire voter des lois pour faire chier ces salauds d'écolos.
Ah non, c'est sympa comme programme. Mais alors, faire de la politique à l'échelon national, c'est vouloir rendre service aux citoyens, ou c'est pour son ambition perso?
Oh, un peu des deux. Ça sert à rendre service au peuple, en aidant les grosses entreprises à se développer. Et surtout, qu'ils puissent vous voir à la télé le mercredi après-midi. Ça illumine leur semaine.
Oui, je suis assez d'accord. C'est aussi rendre service à la nation que de débarrasser notre hémicycle de ces sales porteurs de sandalettes.
C'est une question d'hygiène.
On va faire un peu de fiction, vous êtes élu député.
Non, j'ai pas envie. Vous arrêtez avec vos questions.
D'accord, je continue quand même. Donc c'est quoi le boulot d'un député? C'est voter bêtement pour ou contre le projet de loi? Ou c'est être un tout petit peu plus constructif que ça?
Moi je vais être plus constructif, car je vous laisse poser vos questions.
Vous êtes bien aimable.
J'ai déjà expliqué, il n'y a pas que le parti, mais il est très important. Il y a aussi les puissants lobbies, eux ils sont bien importants. C'est eux qui nous aident à décider des lois que nous approuvons ou déposons.
Oui, vous posez des questions de merde, mais... Je suis d'accord avec mon collègue. Les lobbies et les partis sont importants dans les prises de décision d'un député. À part les partis d'écolo, ça ne sont
jamais. Donc là, en ce moment, on est dans une campagne présidentielle, en l'occurrence. Pourquoi on s'intéresse plus aux petites phrases qu'aux vrais programmes, qu'aux questions de fond, quoi, en fait?
Moi, j'ai pas vraiment de réponse à ça, mais j'ai juste envie de dire que pour sortir de la crise, il faut se débarrasser de ces porteurs de sandalettes puants et barbus.
Bah, moi, je pense...
que le niveau des revenus des Français est si bas qu'ils peuvent pas se cultiver. Alors on fait des petites phrases pour qu'ils comprennent, hein, ces abrutis.
Ah mais bon, vous comprenez bien que devant ce spectacle, dans les médias, les gens ils ont plus confiance, ils ont plus envie de voter, ou alors ils reportent leur voix sur les extrêmes. C'est grave ça, non ?
Oui, les extrêmes c'est grave. Après les gens ils votent plus pour les grands partis majoritaires, c'est très dommage. Et puis on pourrait se retrouver avec des extrémistes écolos au pouvoir et ça plutôt crever.
Ouais, de toute manière, on n'applique jamais ce qu'on dit dans un programme, ou dans sa campagne. Et puis tout ça, c'est la faute à la crise et au terrorisme, mon cher. Quand je vois qu'on excise des fœtus, on devrait exciser les écolos.
On va parler un tout petit peu économie. On a l'impression aujourd'hui que le politique, le dirigeant, il a plus la main sur l'économie. Ce sont les marchés, les agences de notation qui font la politique d'un pays. On fait quoi pour remédier à ça ?
De l'austérité, moins de fonctionnaires, des baisses de salaires, des plus pauvres. Comme ça, nous, on fait plus de bénéfices, on crée du chômage, ce qui fait baisser les salaires, et nous dominons le monde.
La crise, c'est de la faute aux écolos. Votez pas, écolos.
Donc, c'est pas grave, la dette, ou alors il en faut quand même un peu, ou...
Comment ça ? Oui, c'est pas grave, la dette. Si on peut pas endetter quelqu'un, comment vous voulez qu'on fasse beaucoup d'argent ? Hein, comment vous voulez que les riches y fassent grandir leur fortune ? Oh, il faut réfléchir un peu, là. Et comment les marchés financiers, ils vont pouvoir instaurer l'austérité si on fait pas peur avec la dette ?
Ouais, il faudrait endetter les écolos pour qu'ils puissent plus payer du bio, puis qu'ils crèvent de faim !
C'est bien, c'est radical. Une question comme ça, est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas moi, économiser autant que possible dans des périodes de croissance, et puis en période de crise, on se sert de ces économies pour aider les plus démunis, justement ?
C'est quoi cette question là ? On est au baccalauréat ? Moi j'ai pas de baccalauréat. Gamin, tu vas m'apprendre la finance ? Et la politique ? Hein ? Allez, j'ai raté mon effet. Tu vas m'apprendre la finance ? La politique ? Tu nous laisses faire, t'inquiète, on s'occupe bien de tout comme d'habitude.
En tout cas, faut pas faire d'économie d'eau, parce que ça fait chier les écolos. Oh ha ha ! Ça a l'air d'écolos !
Bah d'ailleurs, on va en parler. Les écologistes, vous en pensez quoi de leurs idées de décroissance ?
Qui crève ! Qu'on les noie, qu'on les brûle, qu'on fasse des taxes carbone sur leurs enfants.
Moi, par contre, je suis pas totalement contre la décroissance. Si ce sont que les classes moyennes et populaires qui voient décroître leurs conditions de vie et que les riches puissent en profiter, c'est très bien comme ça.
Donc, si je vous comprends bien, le nucléaire, c'est bien.
C'est vrai que ça peut poser des problèmes. Mais oui, ça emmerde les écologistes, c'est bien. C'est bien.
Ouais, moi, mes copains d'Areva, ils m'ont dit que c'était bien. Ils m'ont dit que c'était sûr aussi en France. Alors, je les crois, hein.
Reste toujours avec les Verts, l'accord électoral entre les Verts et les écologistes, c'est quoi ? C'est une fumisterie ? C'est pour permettre de représenter les idées à l'Assemblée, les idées écologistes ?
Fumisterie ! Mascarade ! Mascarpone ! Tour de dos ! Pacte avec le diable ! Qu'ils crèvent tous ces salauds d'écolos !
En tant que membre de l'UMP, je pense que c'est une bonne chose. Parce que pour qu'on gagne des sièges à l'Assemblée, les endroits où seuls les Verts représenteront aussi le PS, les circonscriptions, on risque de les gagner.
Qui crève ces écolos, qu'on les pende par les sandalettes.
Et élire le président à l'Assemblée, c'est pas donner trop de pouvoir au président ?
Oh, tant que le président n'est pas écolo, ça va.
Plus le pouvoir est concentré dans les mains d'une personne, plus il se sent puissant. Alors c'est bien, il devient totalement déconnecté des réalités et il prend des décisions avec de la hauteur. Tiens, moi j'ai pas encore parlé depuis longtemps, j'ai envie de dire que cette hauteur elle est bien utile pour ne plus rien voir du tout, ou voir tout flou.
Sur les élections à l'Assemblée, vous en pensez quoi de la proportionnelle ? On en met pas, en partie ?
Non ! Pour une raison simple, ça va donner des sièges aux écolos ! Salauds écolos ! Sandalettes de merde !
Oh mais non, on va pas mettre de la proportionnelle ! C'est parti nous carallier le nôtre ! Ils seront bien noyés dans la masse, ils se sentiront bien, et nous apporterons bien plus d'électeurs !
Donc en fait, pour résumer, la droite c'est le pouvoir, l'argent, les lobbies, et la gauche c'est lutter contre les écologistes.
Oui, c'est pas de notre faute, hein. Nous on est des personnages caricaturaux écrits par un type qui sortait d'un lendemain de cuite, inspiré de vraies politiques. Mais on n'est pas aussi caricaturaux que ces bouffards de compost.
La gauche, c'est pas que lutter contre les écolos, hein. C'est aussi nos copains. Ils sont avec nous, avec les lobbies, c'est pour ça, au fond, on les aime bien, les amis du PS.
On se rapproche un petit peu, on arrive à Besançon, on a un politique du côté de Besançon, il dit qu'un bon...
Allez-y, salaud.
Il dit qu'un bon maire, il doit être député pour mieux servir sa commune. C'est vrai, ça ?
Oui, c'est vrai. Car un maire qui passe pas à la télé tous les mercredis n'est pas un bon maire. Et en plus, il a moins de temps. Et un maire, c'est pas fait pour avoir du temps. Ça veut rien dire. On s'en fout, c'était pas écrit, en plus.
Moi, j'ai envie de dire que oui et non. Tant que ça permet d'emmerder les écolos, je suis content. Un maire peut le faire au niveau local, un député au niveau national. Donc si c'est un bon emmerdeur, je suis pour. S'il arrive à les emmerder tant au niveau local que national, c'est salaud d'écolo ! Sandalette merdique !
Bon, je sens que la politique, ça vous divise et ça vous énerve un peu. On va passer à des sujets un peu plus légers.
Pas les écolos !
On va pas parler d'écologie, hein, ça tombe bien. Par exemple, le Qatar dans le foot français, c'est bien ?
Oh oui ! Moi j'aime bien les Arabes qui ont de l'argent, ils sont sympas. Oh, en plus, ils produisent du pétrole, ils s'emmerdent, ces salauds d'écologistes ! Je leur arrache les sandales et d'inclinants !
Question essentielle, est-ce qu'on doit émasculer les chanteurs de boys band ?
S'ils viennent chanter pour Nicolas Sarkozy, non ? S'ils viennent pas à la Rodia, oui ! Qu'on les émascule avec les salauds d'écolos !
Question locale, est-ce que la saucisse de Morteau et le vin jaune doivent être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ?
Oh oui, ça pourrait rapporter d'argent à mes amis qui fabriquent ces produits. Pas les ouvriers, hein. Faut pas non plus abuser. Les patrons, bien entendu. Oh, bah oui, si les ouvriers avaient besoin d'argent, ça se saurait. Tant qu'il n'en fuit pas aux écolos.
On arrive sur la fin, là. Pourquoi la météo, c'est toujours un sujet essentiel dans l'actualité. Et d'ailleurs, est-ce que, comme le souligne le Bisontin, et je crois qu'on y reviendra, Jacques Grosperrin est, comme il le dit, à l'origine du redout de ce début mars, même si on se pèle un peu ce matin.
Jacques Grosperrin ne peut pas que le redout. Lorsqu'il est courroux, la tempête se lève. Lorsqu'il va aux toilettes, des coulées de boue emportent des maisons. Jacques Grosperrin est la terre. Il est le souffle de la vie. Il est Chuck Norris. Ouais, bah s'il pouvait le débarrasser des écologistes, ce serait déjà pas mal. Hein.
Et dernière question, la santé, ça va sinon pour vous ?
Oh, je quitte ce plateau ! Jamais on m'interroge sur ma santé. C'est quoi, c'était ces conditions de réception ? Non, allez, viens avec moi, mon ami Glaoui. On va emmerder les écolos. Eh bien, c'était bien, hein.
C'était saisissant, un spectacle incroyable. Dans le studio, la stupéfaction.
Ah, oui. Les feuilles volées.
On va se détendre, ou pas, avec la chronique du Bisontin. Et ma petite voix qui déraille. C'est normal, c'est pas moi qui faisais les hommes politiques, donc c'est pas normal que ma voix le déraille. Il faut que je retrouve ça, c'est pour ça que je meuble. Et voilà, chronique du Bisontin, à tout de suite, dans 10 minutes.
Youpi, la chronique du Bisontin. Faisons semblant d'être heureux, on est heureux, vive la fête, les présidentielles, vive le monde, vive les députés, vive la Franche-Comté, et vive le Bisontin pour ta chronique.
Oh, t'es trop bon. Youpi. Alors aujourd'hui, je veux rendre hommage à un homme de chez nous. Cet homme, c'est Jacques Grosperrin. Monsieur Grosperrin est le député de la deuxième circonscription du Doubs. Il a donc été élu en 2008 par une bonne partie des Bisontins. Oui, je sais, Jacques Grosperrin est à l'UMP, et je crois savoir que les auditeurs de Radio Bip sont rarement des sympathisants UMP. Bande de gauchos, va.
On devrait tous nous enfermer dans des goulags. Tous salauds de gauchistes.
Ah, ce serait bon pour la France. D'ailleurs, le saviez-vous, Monsieur Grosperrin a refusé de participer à la seule émission qui n'a pas de nom, à laquelle il a pourtant été invité à plusieurs reprises par l'animateur qui n'a pas de nom. Animateur qui en a finalement récolté un de nom. Non, Jacques Grosperrin ne vous accordera pas de rendez-vous. Point.
C'est pas exactement ça. Enfin, j'ai jamais eu directement le député. J'ai seulement ses sous-fifres. Peut-être qu'on me filtre.
Ouais, tu n'as pas pu l'avoir, en fait.
Non, jamais.
Intouchable. Enfin, c'est toi qui es intouchable. Ouais, alors pourquoi point de Grosperrin à la seule émission qui n'a pas de nom ? Par modestie ? Par peur de trop se mettre en avant dans les médias locaux ? Ouais. Sans doute aussi parce qu'il y a peu d'électeurs à ramasser en passant à Radio Bip. Et puis c'est risqué de participer à une émission impertinente. Il y a le risque de s'y faire écorner. Bah oui. Mais Jacques Grosperrin s'écorne déjà bien tout seul, comme vous allez le constater dans un petit extrait croustillant que l'on va vous faire écouter dans quelques instants. Mais auparavant, juste un petit rappel. Monsieur Grosperrin est LE député que le gouvernement envoie au charbon quand il s'agit de faire des propositions de loi pour notamment brader la formation des profs ou justifier la suppression des postes d'enseignants. Logique. Monsieur Grosperrin est prof lui-même. Enfin, professeur d'éducation physique à l'université. Vous me direz que ce n'est pas le même métier qu'un stit ou prof de collège, mais tant pis. Cela permet à M. Grosperrin d'arborer un air expert pour taper sur le gros vilain mammouth archaïque, ainsi que sur les enseignants, fonctionnaires, qui coûtent si cher à la nation et sont toujours en vacances. Un gars comme ça, c'est du pain béni pour l'UMP. Voici donc deux extraits d'une interview d'octobre 2011, dans laquelle M. Grosperrin explique ce que l'école doit être.
C'est incroyable.
Incroyable.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose, c'est qu'il faut s'adresser déjà en direction des plus jeunes. Nous pensons que tout se passe au niveau du primaire et de la maternelle. Donc revenir à ce qu'on appelle les fondamentaux, savoir lire, écrire, compter et bien parler, parce que c'est aussi quelque chose d'important. Et on sait très bien que si ces fondamentaux-là ne sont pas acquis, la suite, en tout cas la réussite dans les études, ne peut fonctionner.
Voilà. Alors dans un second extrait tiré de la même interview, M. Grosperrin parle du programme des très 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 vilains socialistes.
Donc on a pu se rendre compte que c'était un programme qui était flou, qui n'était pas construit, qui était aléatoire et avec des dépenses dithyrambesques, et je crois que...
Dithyrambesques. Ouais, dithyrambesques donc.
Dithyrambesques, et je crois...
Mais non, monsieur Grosperrin, ça ne se dit pas dithyrambesques. Soit, ça arrive à tout le monde de sortir des néologismes non maîtrisés comme celui-ci. Tiens, on se souvient tous par exemple de l'abracadabrantesque de Chirac ou de la bravitude de Ségolène Royal. Mais avouez que donner des leçons sur la manière de bien parler et en faire une aussi belle que ça dans la même interview, c'est grandiose, monsieur Grosperrin, c'est énorme, c'est remarquablantesque. Mais Jacques Grosperrin, ce n'est pas que ça. C'est aussi un homme qui fait énormément pour sa circonscription et pour Besançon en particulier. Oui, oui, je sais, j'entends d'ici les rabat-joie qui ne vont pas manquer de nous rappeler qu'un député est élu pour représenter la nation une et indivisible, et pas sa circonscription en particulier. Certes, mais tout porte à croire que les députés, qu'ils soient de gauche ou de droite, n'ont jamais été mis au courant de cette nuance constitutionnelle. Allez donc leur expliquer qu'ils n'ont pas été élus pour gâter, choyer leurs électeurs en particulier. Allez donc leur dire que ce pouvoir local qui s'attribue n'est qu'une dérive électoraliste de la Ve République. Allez donc leur faire comprendre. Alors qu'a-t-il donc fait, M. Grosperrin, pour Besançon? Eh bien, pour le savoir, il suffit de lire son blog ou les messages qu'il publie sur Facebook. Il y a quelques mois, par exemple, il a été question de fermer la classe préparatoire économique du lycée Louis Pergaud à Besançon. Grosse mobilisation des profs et des étudiants concernés, et ouf, le 9 février dernier, Jacques Grosperrin soulage tout le monde. Je lis. Je me suis attelé à la tâche avec détermination. Mardi dernier, j'ai pu rencontrer Laurent Wauquiez, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, auquel revenait la décision finale. Il m'a donné la garantie que la classe préparatoire du lycée Pergaud de Besançon serait effectivement maintenue. Ça, c'est bien, dites donc. Sauf que les gens concernés savaient depuis le 20 janvier que la section était sauvée, suite notamment à une intervention du président du Conseil général du Doubs, paraît-il. Comment ça? Le député Grosperrin s'attribuerait des bienfaits dans lesquels il n'aurait aucun rôle? Oh, t'en penses quoi, toi?
C'est pas le style des politiques, quoi, de faire des trucs comme ça, moi je pense pas.
Non, je pense pas. Alors on va regarder plus près de nous. Tout près même, puisque l'affaire remonte à ce week-end. L'Est républicain en a même fait ses choux gras dans son édition du dimanche 4 mars. C'est à cause de la navette TER qui relie la gare Viotte à la gare Patate TGV d'Auxon. Cette navette, figurez-vous, siffle à chaque entrée et sortie du tunnel. Une bonne vieille tradition à la SNCF, ça, le coup de sifflet. Sauf que là, les riverains, ils n'en peuvent plus. Ils pètent littéralement les plombs et ça dure depuis la mise en service de la nouvelle ligne à grande vitesse, qui a eu lieu le 1er décembre dernier. Et voilà que M. Grosperrin envoie un communiqué aux médias pour dire, je cite, « En janvier dernier, j'ai interpellé RFF et la SNCF à propos des nuisances sonores. RFF m'a informé qu'en réaction à mon intervention, des dispositions ont été prises afin que les trains ne sifflent plus. » En réaction à mon intervention, qu'il dit le député. En d'autres termes, c'est moi qui l'ai fait, eux.
Mais ouais, voilà. Il les a interpellés, quoi. Mais ça, c'est des techniques de l'UMP. Les interpellations, c'est spécialisé au ministère de l'Intérieur, ces choses-là.
C'est dans la culture, l'UMP. Sauf que cette fois, c'est Jean-Claude Roy, vice-président délégué chargé des transports à l'aglo, bisontine, qui pourfend, je le cite, l'opportunisme de M. Grosperrin. D'après lui, ce seraient les interventions effectuées depuis plusieurs mois de Marie-Guy Dufay, de Jean-Louis Fousseret et d'une association des chaperets qui auraient coupé le sifflet du petit train. Et M. Roy d'ajouter, n'en déplaise à M. Grosperrin qui tire la couverture à lui. La couverture? La couverture, M. Roy, vous êtes sûr? Ne devrions-nous pas plutôt parler d'une cape de super-héros? Je parle bien sûr du super-héros qui se cache en Jacques Grosperrin, la cape de Jackman, le super-héros qui résout tous les soucis des bisontins. Jackman, qui retrouve des super-pouvoirs vachement efficaces en période électorale, si vous ne l'aviez pas déjà remarqué. Mais n'en déplaise aux jaloux et aux grognons, Jacques Grosperrin sait aussi rester dans l'ombre et répandre ses bienfaits discrètement et en toute abnégation. Rappelez-vous, par exemple, de la vague de froid qui sévissait il y a encore 2 semaines. Le Doubs à moitié gelé, les coupures d'eau, la galère, quoi. Trop, c'est trop. Monsieur Grosperrin s'est attelé à la tâche avec détermination. Une lettre bien sentie, adressée au directeur de Météo France, a suffi. Ce dernier a remonté hélico les bretelles à Joël Collado, qui a filé droit et ne l'a pas ramené. Depuis, depuis, il fait beau. Notre député aurait même obtenu du directeur du service des calendriers de la Poste que le printemps commence le 20 mars prochain. Merci, Jackman. Ah, puis tiens, les 210 ans de notre gloire locale, Victor Hugo. Vous pensez vraiment que Victor aurait atteint un âge aussi respectable sans l'intervention efficace de M. Grosperrin? Un coup de téléphone à la secrétaire d'État chargée des aînés, un stock de DHEA débloqué, et vlan 210 ans de notre totor avec toute sa barbe. Merci Jackman. Mais le fait d'armes le plus incroyable de notre député date sans doute d'avril 2010. Personne n'en a rien su, sauf moi, une exclusivité que je vous révèle donc aujourd'hui à vous, auditeurs de Radio Pip. Laissez-moi d'abord vous parler d'une espèce de lémurien menacé d'extinction. Les grands apalémures. Les grands apalémures vivent à l'état sauvage à Madagascar, où ils subissent, pardon, où ils subsistent en très petit nombre. Un couple de ces lémuriens si rares est enfermé, pardon, est hébergé au zoo de la citadelle de Besançon depuis quelques années déjà. Mais voilà, impossible de leur faire faire des gosses à nos deux grands apalémures. Par pudeur sans doute. Bah oui, quoi, quand on n'a pas les murs, faire ça sous les yeux de tout le monde, hein, vous le feriez vous?
Ça dépend. C'est devant des enfants, pourquoi pas, pas devant des adultes.
Faut que ça soit motivant. Bref, ni une ni deux, monsieur Gros-Perrin enfile l'écharpe tricolore et va voir nos deux grands apalémures. Il leur explique que c'est bien gentil tout ça, qu'on veut bien héberger des malgaches, mais qu'il faudrait voir à faire au moins un gosse, histoire de faire un peu de pub à la citadelle et à Besançon, qui nous doivent bien ça. Sinon, là, notre député aurait évoqué monsieur Hortefeux, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Il aurait causé charter et retour dans un zoo délabré de Madagascar. Eh bien, vous savez quoi? Le 20 avril 2010, naissait un tout petit grand apalémure. Un événement tout à fait exceptionnel en captivité.
Et le papa, c'est Jacques Gros-Perrin?
Ah, ça, il faudrait voir avec le petit. Les airs de ressemblance, ou pas. Sacré pub pour notre citadelle, en tout cas. Merci qui? Merci Jackman. Quant à la porte noire, qui serait devenue blanche, suite à l'intervention déterminée de notre député auprès de monsieur Guéant, nous n'avons pas eu confirmation, je n'en en parlerai donc pas.
C'était peut-être un nettoyage au Karcher?
C'est bien probable.
Tradition UMP aussi.
Pour terminer, j'ai une requête à adresser à notre député. Monsieur Gros-Perrin, la circulation devient particulièrement difficile en ce moment dans les rues de Besançon. Vous l'aurez sans doute remarqué, même s'il est vrai qu'en moto, on se déplace plus facilement. Alors une intervention déterminée de votre part auprès du secrétaire d'État chargé des rebouchages de trous, ça pourrait peut-être vous faire réélire, et ce serait très populaire. Vous pourriez même venir en parler dans l'émission. Vous y êtes toujours invité, n'est-ce pas?
Ah, je sais pas, moi. Faudrait que je voie jusqu'où il est prêt à aller pour accepter mon invitation. Enfin, ou sinon, jusqu'où je suis prêt à aller. Puisque pour le moment, il est en position de force, mais j'aimerais bien lui faire croire que je suis en position de force. Jackman, je veux Jackman. C'était un billet dithyrambesque, hein.
Ouais, on verra.
Juste une précision pour faire un petit peu de pub.
Vas-y.
Pour dire que le montage de cette interview qu'on a passé tout à l'heure avec Jacques Gros-Perrin, vous pouvez le retrouver sur mon blog.
Dans tous vos bons vidéoclubs.
C'est bisontin.net, mais bison, ça s'écrit comme un bison et éteint plutôt comme quelqu'un qui aurait subi une teinture. Bisontin.net, voilà.
Et bon, j'ai perdu ma blague entre-temps.
C'est pas grave.
Bon, merci, au revoir.
Alors cet article a été sponsorisé par AdWords. J'espère que le Bisonta va bien nous rendre au moins ses 50 centimes d'euros qu'il aura eu de publicité gratuite. Mais c'est vrai que les mots nous manquent et je suis complètement abasourdu par ces billets sur notre ami Jacques Gros-Perrin qui, rappelons-le, en tant que judoka politique, est un peu notre Poutine local.
Ou notre Douillet. C'est une bonne idée de faire les jingles à la guitare. La seule émission qui n'a pas de nom. C'est que la papap.
Alors tout de suite, dans le studio, une nouvelle surprise. L'artiste qui n'a pas de nom, le chanteur qui n'a pas de nom.
Ouais, c'est moi. Ouais.
Vous venez nous interpréter une petite chanson. Alors déjà, comment ça va?
Comment ça va? Je sais pas. Je sais pas vraiment si un artiste a le droit d'aller ou de ne pas aller dans une période de campagne politique présidentielle.
Alors on vous présente un petit peu comme le Damien Saez Bisontin. Est-ce que vous sentez à l'aise avec ce petit surnom?
Ben ouais, vu que je suis de la famille de Jean-Louis Fousseret qu'on appelle Jean-Louis Saez, j'ai l'impression d'être un peu dans la même veine. Ouais.
Artistiquement, ouais, vous situeriez ouais. À quel niveau à peu près, dans quel courant musical?
Ah, plutôt des courants ascendants, comme dirait Joel Corrado. Ouais, je change de voix quoi.
Oui, vos sources, vos références, vos inspirations, c'est qui, c'est quoi?
Ah, moi, c'est plutôt un enfant qui est en train de se suicider au bord d'un petit pont, une vieille dame qui est en train de se masturber au milieu de la route. C'est des choses simples, les choses de la vie.
Alors, la chanson, elle s'appelle comment alors?
Cette chanson, vous ne connaîtrez pas le titre parce que...
Ah, c'est une chanson qui n'a pas de nom non plus.
Je suis mystérieux.
Alors, comme dirait Sébastien Rock en son temps, pousse petit vent.
Je suis bien accordé. Ils sont pas beaux, ils sentent pas bon, ils ont des habits démodés, Leurs coupes de cheveux, elles sont ratées. Ils feraient mieux de se suicider. À la place de se plaindre tout le temps, ils feraient mieux de gagner de l'argent. Même avant d'être nés, ils ont choisi des parents fauchés. Les pauvres. Chut. Et quand ils cherchent du travail, ils choisissent que des trucs de merde, traités comme du bétail, à qui on donnerait juste assez d'herbe. La plupart du temps, ils n'en trouvent pas. Ils avaient qu'à choisir le bon papa, avec de gros réseaux et une fortune avec plein de zéros. Et quand ils n'ont plus d'argent, ils demandent un découvert. Du coup, ils perdent plus d'argent et enrichissent les actionnaires. Les actions, ils peuvent pas s'en payer. Vous avez qu'à n'être un peu friqué. La solidarité, c'est dépassé. Les pauvres n'ont qu'à crever. Le problème, c'est que s'il y en a plus, bah, y aura plus de riches non plus. Solo de fin. Merci, merci Radio Bip, merci Besançon.
Et merci au chanteur qui n'a pas de nom.
Ouais, merci à moi, oui, je m'aime.
Alors tout de suite, une réaction du Bisontin qui évidemment est sur le coup, donc il n'y aurait plus de pub sur son blog, donc même pas les 50 centimes d'euros pourront être versés à Radio Bip.
Ça c'est une honte, c'est une honte. Moi je pense pas qu'on peut vivre dans un pays comme ça. Il y en a marre, voilà, on est dans des temps où on peut pas se permettre.
Poursuivons. De quoi est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler d'un petit événement qui s'est passé la semaine dernière sur Sarkozy dans le Sud-Ouest?
Je suis pas sûr que on puisse parler de semaine dernière parce que je reprends ma voix normale. L'artiste est mort et on fait le jingle et on passe. On va passer à la suite. Hein. Avec le jingle. La seule émission qui n'a pas de nom, bah voilà, pop, tout ça. Oui, c'est vrai, on va parler de ça. T'as raison, Christophe, de lui fermer sa gueule à cet artiste qui improvise et nous qui improvisons avec en même temps. On va parler, oui, de Sarkozy qui était hué à Bayonne. On va pas dire la semaine dernière parce que on peut être diffusé. Donc les indications temporelles, ça c'est un autre truc que tu dois savoir. On essaye d'éviter un petit peu. Sarkozy qui s'est promené dans les rues de Bayonne, qui s'est fait huer. Je vais ouvrir, mais excusez-nous, hein. C'est le coup de l'interphone, c'est le rituel.
C'est Eric Alauzé qui sonne à intervalle régulier.
C'est les fameux problèmes techniques.
C'est ça. Là, Michel vient de se prendre une grosse baffe dans la gueule. Bon, on parle de Sarkozy ou pas? Oui. J'ai préparé plein de blagues. Je les ai classées bizarrement. Alors blague du jour. Tiens, d'ailleurs, ce serait pas mal qu'il y en ait un de vous qui fasse blague du jour, puis après je dis comme ça serait.
Blague du jour.
Ouais, je suis choqué par ces événements. Se mettre à tant de personnes pour s'en prendre à un enfant, c'est immonde, même si l'enfant en question est très capricieux.
La blague de la semaine.
Il a eu de la chance, Nicolas Sarkozy. On lui a acheté uniquement des œufs. Il aurait pu se prendre dans le visage des spécialités locales bien plus urticantes, comme par exemple du fromage de Brebieux ou du piment d'Espelette.
Ou un jambon de Bayonne aussi.
La blague du mois.
Connaissant la force des Basques, il a eu aussi de la chance que les manifestants n'aient pas appelé des joueurs de pelote basque pour utiliser le visage du président tel un mur.
Blague de l'année.
Le plus dur pour Sarkozy, ça a été de devoir se retrancher dans un bar où le café est à moins de 2 euros.
La blague du siècle.
On comprend que les Basques veuillent leur indépendance, quand on voit les gouvernements français et espagnols.
Blague du millénaire.
Un Basque qui vote Sarkozy, c'est comme un Arabe qui vote Front National.
La blague de l'ère géologique.
Eh oui, on regrette que l'ETA ait déposé les armes avant l'avenue de Sarkozy dans les rues de Bayonne. Youpi, j'ai envie de tirer mes cheveux en l'air.
C'est vrai que sur ce petit truc, on pourrait dire quand même que c'est assez sympathique tout de suite d'en appeler... Parce que finalement, la démocratie, c'est aussi le droit de manifester. Donc tout de suite qu'on en vienne à dire que c'est antidémocratique, c'est assez marrant. Surtout venant de la part de quelqu'un dont le parti empêche les parrainages des maires de son étiquette.
Et puis aussi dire que c'était que des indépendantistes basques, parce que je suis pas sûr qu'il y avait que des indépendantistes basques et des militants PS. Hein.
Bon, le droit de manifester, mais bon, c'est juste une question d'image, on a bien compris que ça pouvait être gênant.
De toute façon, les militants indépendantistes basques, on leur a coupé les couilles, ils ont rendu les armes. Et tout de suite, j'ai un gueule, ouais. C'est professionnel, la seule émission qui n'a pas de nom. Tagalapapap. Alors, on va parler vite fait, on va en parler sans mon billet, j'ai mes arguments quand même qui sont écrits. Je voulais qu'on parle de la proposition de gauche, miracle de Hollande, propose de taxer les personnes qui gagnent plus d'un million d'euros, je sais plus, ses parents, je crois, ouais.
Oui, par an,
à 75%. Alors vous, vous en pensez quoi?
C'est une mesure de gauche, effectivement. Mais est-ce que c'est pas une mesure qu'on lance comme ça en l'air?
C'est ce que je pensais aussi, moi. Enfin, j'ai eu l'impression que c'était... J'ai regardé cette soirée sur TF1, là. D'ailleurs, je voulais pas dire le nom de cette chaîne. Ouais, il était en freestyle, quoi. Il bégayait quand il disait ça. Il allait chercher vachement ses mots. Et puis après, d'ailleurs, Cahuzac, qui passait sur France 2, a dit... qu'il était pas au courant.
C'est ça, puis il a commencé à dire 1 million d'euros par mois, puis après c'était 1 million d'euros par an, c'était un peu impro, ouais.
Bon, après, en théorie, je peux être que d'accord, finalement, de se dire que, voilà, quand on gagne 1 million d'euros par an, on peut être assez confortable pour participer plus. Ça, c'est sûr, en théorie. Après, en pratique, on sent que c'est un petit peu... voilà, c'est la campagne, quoi. On lance des trucs... oh, tiens, je vais dire ça, ça va faire de gauche, quoi.
Et puis faire de gauche sur TF1, c'est bizarre quand même, parce que TF1, c'est quand même tenu par Martin Bouygues, cette belle grande fortune qui possède les constructions, qui possède un opérateur de téléphonie et d'internet à son nom d'ailleurs. Très original dans la créativité, cet homme-là. Enfin, c'est cet homme-là et toutes les équipes qui l'entourent. Et puis, ouais, je voulais parler d'un autre truc. C'était peut-être courageux pour Hollande de dire ça, mais j'ai trouvé un autre truc courageux. C'était Poutou qui était sur TF1 et qui parlait de la fortune de Martin Bouygues sur TF1. C'est assez sympathique.
Oh bah Philippe Poutou, on l'apprécie, ne serait-ce que pour son nom. Hein.
Comme dirait quelqu'un qui m'est proche, il est gentil, c'est quelqu'un qui fait des poutous.
Voilà.
Et puis c'est quelqu'un qui est proche de nous aussi, parce que c'est un ouvrier, hein, au cas où.
Oui, c'est le seul. Et puis c'est un des seuls qui répond vraiment sur les réseaux sociaux, lui.
Et ben voilà, on aura fait un bout de la campagne à Poutou. Il gagnera 0,3% grâce à nous, et on va clore l'émission.
Je suis sûr qu'il viendra à l'émission qui n'a pas de nom, lui.
Pas sûr.
Après, à voir s'il fait faire gaffe aussi aux légalités en temps de parole. Hein.
Bah oui, il va falloir que je pense à ça aussi un jour. Bon, on va clôturer tout ça. Dernier mot, comme quand il y a les politiques.
Kebab.
Rhododendron.
Et moi, ce sera Gougnafié. Et la suite des programmes de Radio Bip. Bisous à tous. Merci les tweetos qui ont réagi, ceux qui n'ont pas réagi, les gens qui ne sont pas sur Twitter, tout le monde, on vous aime. Et bonne journée.
Salut.